Les grandes heures de la France par Octave Aubry. Chapitre 10e. La chute de la monarchie. La rébellion du tiers-état. À la veille des grands changements qui vont bouleverser la France, au point qu'elle perdra ses usages et son équilibre, en quel état se trouve-t-elle? N'est-elle qu'une monarchie décrépite où tout s'est gangréné, lois, autorités, principes de gouvernement, qu'un pays d'esclaves où le peuple décharné, haineux, est prêt à mourir pour échapper à ses bourreaux? Non, quoi qu'on en ait prétendu, cela n'est pas la vérité. Tout dans l'Ancien Régime n'est pas injuste, absurde, détestable. C'est une grande machine encore saine, où quelques rouages ont vieilli, sont usés. Louis XVI a appelé la France elle-même à se réformer. Après 15 ans d'hésitation et d'échecs, il a convoqué les États généraux. Cette faute capitale, et qui va entraîner la destruction du régime, apparaît dès les premiers jours. Les trois ordres des États, noblesse, clergé et tiers, sont profondément divisés. Tandis que les nobles de cour s'entêtent à conserver leurs privilèges, les nobles libéraux trahissent délibérément la monarchie. Tout un prolétariat religieux, très janséniste, très gallican, s'élève contre les grands prélats et contre Rome. Pour le tiers, qui par la richesse, la culture, l'activité, est devenu l'élite, et qui a excité depuis un demi-siècle par des sociétés de pensée, la franc-maçonnerie, la publication de l'encyclopédie, les ouvrages des philosophes, il réclame large part au gouvernement. Il va enfin devenir quelque chose. Il a des idées, il a aussi des hommes. Deux surtout, également transfuges de leur ordre, Mirabeau et Sieyès. Mirabeau est un déserteur de la noblesse, violent, sensuel. Il a eu la jeunesse la plus grosse. Enfermé au château d'If, au port de Joux, puis à Vincennes, il en sort en 1780 et reçoit de Calonne une mission secrète en Prusse. Il rentre en France pour se jeter dans la Révolution. Son intelligence, sa parole emphatique et colorée, son audace en font un meneur d'hommes. Ses pairs, les nobles, le méprisent et le repoussent. Il sera député du tiers-état. De taille moyenne, massif, la tête dans les épaules, son large visage ravagé par la variole, ses yeux injectés de sang effrayent et fascinent. « On ne connaît pas, dit-il, la toute-puissance de ma laideur. Quand je secoue ma terrible hure, il n'y a personne qui ose m'interrompre. » Il n'est pas seulement un admirable orateur, c'est un politique profond. Mais il ne peut donner toute sa mesure qu'au pouvoir et le pouvoir lui sera refusé. Il mourra trop tôt, brûlé par sa flamme, épuisé par ses vices. C'est la plus grande force perdue de la Révolution. Sieyès est bien différent. Ancien aumônier de cour, c'est un homme replet, aux yeux ternes, aux traits taciturnes, mais doué d'un orgueil profond, d'une volonté souterraine, qui entreprend toujours sans s'occuper de l'issue. On l'interroge avec respect. Il répond sur un ton mystérieux comme s'il rendait des oracles. Mais il lui manque, pour se hausser au premier plan, cette sorte d'activité virile, d'ardeur physique, que veulent les grands destins politiques. Il a pu dépouiller la robe du prêtre, il en a gardé le cerveau. Ballotté entre les factions, pour les dominer à la fin, il faudra le secours d'une épée. Et au moment qu'il croira toucher au triomphe, il sera culbuté par le soldat. Ces deux hommes mènent dès le début une dure lutte contre la royauté. Ils forcent le clergé et la noblesse à se réunir au tiers pour former une seule assemblée qui se déclare nationale et constituante. Un pas immense est ainsi franchi. Le peuple de Paris, que le duc d'Orléans, cousin du roi, et qui voudrait lui prendre sa couronne, travaille par de nombreux agents, en franchit un autre, et capital, en prenant le 14 juillet 1789, la forteresse de la Bastille. L'enthousiasme et la peur. La Bastille, pour Paris, c'est le symbole du despotisme. Il la croit pleine de martyrs de l'arbitraire royal. Au vrai, l'ancien château fort de Charles V, avec ses 8 tours grises, couronnées de vieux canons, n'est plus guère qu'une prison de parade, où le roi fait enfermer pour quelques semaines des fils de famille ou des gazetiers. Elle est commandée par un galant homme, Launay, qui n'a sous ses ordres que 40 Suisses et 80 invalides. Invité à retirer ses canons, il les fait ôter des embrasures. La populace qui s'amasse en hurlant au pied de la forteresse brise les chaînes du pont-levis, se jette dans la cour. Launay, après deux sommations, ordonne de tirer. La foule s'enfuit puis revient, furieuse. Des gardes françaises rebelles la renforcent, avec deux pièces de canon prises à l'hôtel de ville. Leur arrivée démoralise la petite garnison. Elle presse le gouverneur de se rendre. Launay, désespéré, pense d'abord à faire sauter la poudrière. Deux hommes se jettent sur lui, l'arrêtent, ils arborent le drapeau blanc. Les assaillants se précipitent dans la forteresse. Leurs meneurs ont promis la vie sauve aux défenseurs. Mais il y a trop de lits dans cette foule. Elle massacre Launay, trois autres officiers, des invalides. On délivre les prisonniers. Ils ne sont que sept. Quatre faussaires, deux fous, un héros-ottomane. On porte en triomphe ces victimes de l'absolutisme. Avec eux, dominée par les pics où elle a planté la tête de Launay et de ses soldats, elle marche sur l'hôtel de ville. Le prévôt des marchands, Flessel, est sommé de sortir. Il sort, est abattu, mis en lambeaux. Le soir, le peuple danse au palais royal autour des têtes qu'on a plantées dans le jardin. Il a le goût du sang. Dès lors, il sera sanguinaire. Sa victoire l'a enivré. Sa raison titube. Les bourgeois de l'hôtel de ville le flattent bassement. Une légende se forme. Les vainqueurs de la Bastille, qui sont des bandits, deviennent des héros. L'Assemblée nationale a trop d'intérêt à ne pas adopter ce mensonge. Elle félicite le peuple de Paris de sa sagesse et se déclare en permanence craignant un retour offensif de la cour. Louis XVI est atterré. Il devrait résister, il s'incline. Il vient à Paris deux jours après s'humilier et sanctionner la révolte de sa capitale. Pour se réconcilier avec son peuple, il ne regarde pas aux concessions. Mais il a montré tant de faiblesses qu'à présent le peuple va se croire tout permis. La France non plus ne se trompe pas sur la gravité d'un tel effondrement du pouvoir. Elle a peur. Peur de l'anarchie où Paris est tombé, peur des brigands qui courent, dit-on, de proche en proche, au pillage des maisons, au saccage des récoltes, peur de la faim, peur de l'inconnu. Bourgeois, paysans s'arment. Une jacquerie mise en œuvre par de nombreux émissaires vient justifier l'effroi. Dès les derniers jours de juillet, des centaines de châteaux et de couvents sont brûlés. L'Assemblée, devant ces désordres qu'aucune autorité ne réprime, cherche le moyen de calmer les provinces. Il faut bien agir. Le roi ni ses ministres ne gouvernent plus. Le 4 août, le vicomte de Noailles, parfaitement ruiné et qui n'a vraiment rien à perdre, propose l'abolition des droits féodaux. L'Assemblée approuve, enthousiaste. Le duc d'Aiguillon élargit la proposition, l'applique aux servitudes personnelles. On l'acclame. Alors c'est un déchaînement, une cascade de surenchères et de folie. Chacun s'élance au sacrifice sans se préoccuper des conséquences. En quelques heures de nuit, parmi les cris, les étreintes, les pleurs de joie, sont abolis tous les privilèges. Louis XVI est proclamé le restaurateur de la liberté française. Et l'archevêque de Paris entraîne l'assemblée à la chapelle du château pour remercier Dieu par un Te Deum. Cette nuit exaltée a fait la table trop rase. Tous les Français, maintenant, sont égaux, tous peuvent parvenir aux emplois. Cependant, on a porté atteinte à des droits respectables, on a supprimé de véritables propriétés. On ne transforme pas un pays jusqu'au tréfonds en un soir de délire. Le 4 août a secoué durement la France et fait des ruines qu'il faudra regretter. Deux mois chaotés où l'Assemblée s'essaye à gouverner, hantée par le spectre de la banqueroute, puis une nouvelle émeute de Paris que des agents occultes affament et excitent. La plèbe de la capitale se rue à Versailles et le 6 octobre, après des scènes hideuses, on ramène le roi prisonnier aux Tuileries. Dès le lendemain du 14 juillet, le comte d'Artois, frère du roi et ses fils, les princes de Condé et de Conti, plusieurs centaines de grands nobles, de hauts prélats, de conseillers de la cour, ont émigré sur les bords du Rhin ou au Piémont pour préparer, avec l'aide de l'Europe monarchique, un retour offensif contre la Révolution. La refonte d'un pays. Cependant, l'Assemblée, à son tour, a quitté Versailles pour suivre le roi. Un jeune noble libéral, Lafayette, qui s'est illustré en Amérique et qui a été acclamé commandant général de la garde nationale de Paris après la prise de la Bastille, est en fait à ce moment le vrai maître du pouvoir. Le pouvoir, il va l'exercer près de deux ans. mais en lutte continuelle contre la cour, qui ne lui pardonne pas sa protection, contre l'assemblée qui se défie de lui, enfin contre les clubs qui s'acharnent à saper toute autorité. Ces clubs sont devenus en peu de mois de véritables puissances politiques, qui plus encore que la presse dirigent l'opinion. Les Jacobins, fondés par les députés de Bretagne et établis dans l'ancienne chapelle de la rue Saint-Honoré, ont des succursales dans tout le royaume, des agents dans les plus petites villes. À leur tribune défilent les chefs de parti de l'Assemblée, les meneurs populaires. On s'y accuse, on s'y défend, on y prépare les assauts successifs contre la royauté. Les grandes questions y sont débattues d'abord. Ce sont les Jacobins qui font les réputations et prononcent les disgrâces. Quand la révolution s'enfoncera dans le sang, ce sont eux qui deviendront les pourvoyeurs de l'échafaud. Les Jacobins, où domine un jeune député d'Arras, Maximilien de Robespierre, demeureront longtemps bourgeois et partisans de la monarchie illimitée. Les cordeliers, d'esprit peuple, appuyés par les artisans, viendront plutôt à la République. Leur fondateur est un avocat fou d'eux, Danton. Ils ne comptent qu'à Paris, mais en quelques heures, ils peuvent rassembler des milliers d'ouvriers dans les faubourgs et les jeter sur l'Assemblée ou les Tuileries. Les Feuillants sont un club monarchiste, constitutionnel, opposé à la démagogie. Lafayette en est le grand homme, son influence se perdra bientôt dans les sables. La presse est née de la Révolution. Royaliste avec les Actes des Apôtres, populaire avec l'ami du peuple de Marat, le père du chêne d'Hébert, par l'injure, la calomnie, par des attaques atroces, elle exaspère les passions, porte au rouge la furie politique. Paris est devenue une chaudière au-dessus de laquelle tourbillonnent des gaz empoisonnés. L'Assemblée, tombée dans sa dépendance, a perdu tout prestige. Elle travaille avec conscience pourtant, mais on la morigène, on se défie de sa modération. Elle travaille. Elle a l'esprit légiste, spéculatif et arbitraire. Faisant passer la souveraineté du roi à la nation, elle a voulu observer dans sa réorganisation de l'État la séparation des trois pouvoirs demandés par Montesquieu. Le roi est le premier serviteur du pays, inviolable et sans responsabilité. Ses ministres, eux, sont responsables. Il jouit d'une liste civile de 25 millions. Il peut s'opposer pendant 6 ans par le veto à une loi qui n'a pas son assentiment. Mais il ne peut dissoudre l'Assemblée et n'a même pas le droit de grâce. L'Assemblée, qui s'appellera Assemblée législative, nommée pour 2 ans par un petit nombre d'électeurs, a seule l'initiative des lois. Elle fixe les dépenses publiques, vote les impôts, décide de la paix et de la guerre. Il y a trop de pouvoir chez elle et point assez dans l'exécutif. Mirabeau le disait, la loi constitutionnelle est trop républicaine pour une monarchie et pour une république, il y a un roi de trop. Le pouvoir judiciaire, autre absurdité, est devenu électif. Les mêmes électeurs qui nomment les députés choisissent pour 10 ans les juges civils. Aux criminels, c'est un jury tiré au sort qui se prononcera sur la question de culpabilité. Les anciens impôts sont remplacés par 3 contributions directes et des contributions indirectes. Ce sont encore les bases de notre système financier. Chaque année, l'Assemblée fixera l'effectif des troupes et les sommes nécessaires à leur entretien. Tous les grades seront accessibles à tous les citoyens, sans distinction de naissance et donnée à l'ancienneté. C'est en somme la reconstruction d'un pays après la destruction des organes de sa vie antérieure. Prodigieux travail, mais inhabile, hâtif, assis sur des nuées, et qui ne tient compte ni des traditions ni des vrais besoins de la France. La guerre à l'Église. La Constituante couronne cette vaste improvisation par une décision capitale. Sur la proposition de Talleyrand, évêque d'Autun, soutenue par Mirabeau, en dépit des efforts de Sieyès, elle nationalise les biens du clergé. Avec eux, on éteindra la dette publique qui s'élève à 2 milliards 400 millions. En s'attribuant l'immense fortune du clergé, la nation prend à sa charge les frais du culte et le soulagement des pauvres et des malades. Les prêtres deviennent ainsi des fonctionnaires rétribués par l'État. L'Assemblée, composée surtout de francs-maçons et où s'épanouit le vieil esprit janséniste, hostile à Rome, va pousser plus loin et violer le domaine interdit des âmes. Elle vote la constitution civile du clergé qui abroge le concordat établit une église nationale indépendante du pape. Les évêques, les curés, seront élus comme les députés. Ils devront prêter serment à la Constitution. La plupart vont refuser. L'Assemblée a commis là sa faute essentielle. Elle a blessé le sentiment religieux, si puissant en France. Elle a aliéné, à la cause de la Révolution, la majorité du bas clergé d'abord, si dévoué. Enfin, elle a découragé le roi, l'a rejeté au désespoir, aux actes qui vont consommer sa perte. Atteint dans ses plus intimes convictions, Louis XVI n'osera pourtant se servir du veto. Dans une affreuse angoisse, il sanctionne la loi. « J'aimerais mieux, dit-il en signant le décret, être roi de Metz que demeurer roi de France dans une position pareille. » Dès ce moment, il songe à quitter Paris et à faire appel à l'étranger. Dans cette marche si rapide vers le gouffre, la Révolution a pourtant marqué quelques arrêts. À l'Assemblée, beaucoup pensent qu'un accord sincère avec le roi peut seul éviter l'anarchie. « Le vaisseau de l'État est battu par la plus violente tempête, écrit Mirabeau, et il n'y a personne à la barre. Cette conciliation, il y travaille en secret. Il se rapproche de la reine, et dans une entrevue avec elle, s'engage, sans sacrifier rien du nouveau régime, à défendre ce qui reste de la royauté. Il fera payer ses services de grosses sommes d'argent. Il se vend, comme dit Lafayette, mais dans le sens de ses opinions. » Le 14 juillet 1790, à la fête de la Fédération, où toutes les provinces de France ont envoyé leurs délégués pour exprimer leur libre volonté d'union nationale, Louis XVI jure fidélité à la Constitution. En retour, Mirabeau fait donner au roi par l'Assemblée le droit de paix et de guerre. Si l'entente pouvait durer, la monarchie serait sauvée sans doute. Seulement, la question religieuse gâte tout. Louis XVI ne peut sincèrement adhérer à un régime qui persécute sa foi. Par Breteuil, il entre en négociation avec son beau-frère, l'empereur Léopold. Son mobile a été mal compris. Nous n'avons plus la même idée de la patrie. Un roi de droit divin se trouve vis-à-vis d'elle d'autres sentiments qu'un homme privé. Où il est, pense-t-il, là est la France. Si un concours extérieur le rétablit dans son autorité, Louis XVI croira sincèrement qu'il agit dans l'intérêt du pays. Les émigrés gâtent les affaires. Impertinents, imprudents et frivoles, ils vont presser les puissants d'intervenir pour le souverain que leurs intrigues compromettent aux yeux de son peuple. La Russie, la Prusse, l'Autriche d'ailleurs, si elles doivent intervenir, ne songent qu'à leur intérêt propre. La grande Catherine veut absorber ce qui reste encore de la Pologne, tandis que le roi de Prusse et l'empereur se nantiront de compensation en France. Pour Louis XVI, pour Marie-Antoinette, aucune vraie sympathie, aucune pitié. Mirabeau meurt, à peine à 40 ans, épuisé par sa vie folle, après un dernier mot sonore au compère Talleyrand. « J'emporte avec moi les lambeaux de la monarchie. » Il a vu clair au moment où ses yeux se fermaient. Vivant, peut-être, eût-il empêché le naufrage total de la royauté. Lui, disparu, elle n'a plus de conseil. Marie-Antoinette agit sans contrepoids sur l'esprit de Louis XVI. Des maladresses successives vont précipiter leur désastre. Varennes. La plus grave, la plus regrettable est la fuite de la famille royale. Le roi n'en peut plus, on le brime, on l'outrage, on persécute sa foi. Il ne veut pas du reste gagner l'étranger, mais se réfugier à la frontière au milieu de l'armée de Metz, commandée par Bouillet qu'il sait fidèle. Redevenu libre, il croit qu'il dominera la situation. La France, affolée à l'idée de le perdre, se jettera à ses pieds. Revenant à Paris avec les soldats de Bouillet, il lui pardonnera. Une nouvelle alliance, durable et féconde, unira la nation et son prince. Rêve. On sait comment finit cette lamentable équipée. La famille royale, arrêtée à Varennes, est ramenée à Paris sous la garde de trois commissaires de l'Assemblée. Vrai chemin de croix qui s'allonge trois jours par une chaleur mortelle, au milieu d'atroces quolibets. La fuite de Louis XVI était une faute même si elle avait réussi. Du moment qu'elle échoue, rien ne la défend. L'Assemblée constituante qui a suspendu Louis XVI lui rend toutefois la couronne. Si elle durait, peut-être une monarchie constitutionnelle pourrait-elle se fonder. Car beaucoup de représentants ont pris de l'expérience et la plupart restent attachés au régime. Mais elle se sépare, laissant la place à une Assemblée nouvelle, l'Assemblée législative, dont aucun de ses membres ne fait partie. Cette assemblée, peuple de rhéteurs et de chimériques, va précipiter les événements et faire rebondir la révolution. À droite, siègent ceux qui veulent appliquer la Constitution, les feuillants. Ils ne sont guère plus d'une centaine. Le centre, qu'on appelle aussi les indépendants, a pour lui le nombre, mais il est divisé, hésitant. À gauche, les jacobins républicains avoués ou secrets, dont les chefs, Bergniaud, Gadet, Jansonnet, députés de Bordeaux, font donner au groupe le nom de Girondins. Les Girondins, faisant pour un moment l'union des gauches, forcent le roi à renvoyer son ministère feuillant et s'installent au pouvoir. Roland prend l'intérieur, Dumouriez les affaires étrangères. L'opinion du pays est pour eux. Les Girondins, en mars et avril 1792, sont vraiment les maîtres. Ils poussent à la guerre contre l'Autriche, qui soutient les immigrés et défend les droits des princes allemands privés de leurs biens en Alsace. La guerre, les Girondins la veulent pour juguler définitivement la royauté, assurer le triomphe de la Révolution et, s'il se peut, la répandre en Europe. Ils ne doutent pas de la victoire, ces orateurs, si peu hommes d'État. Ils ne veulent pas connaître l'indiscipline des troupes ni la pénurie des arsenaux. L'Assemblée les suit, passive. Aux Tuileries, la reine pense que la guerre peut sauver la monarchie par une défaite qui ouvrirait aux alliés le chemin de Paris. Elle décide Louis qui se rend à l'Assemblée le 2 avril et propose de déclarer la guerre au roi de Hongrie et de Bohême, c'est-à-dire à l'Autriche. Le décret est voté d'enthousiasme, Paris illumine le soir. Les Français subissent d'humiliants échecs. La France se sent la veille d'un désastre. On crie à la tradition. Éperdue, l'Assemblée frappe le roi et le clergé. Elle ordonne le licenciement de la garde de Louis XVI, la déportation des prêtres assermentés. Le ministre de la guerre servant fait adopter une mesure menaçante, la formation d'un camp de 20 000 fédérés à Soissons. Le roi prononce le veto et montre en soudain une vigueur inattendue. Il renvoie un ministère qui le combat dans son propre cabinet. Le 20 juin. Action raisonnable s'il avait la force. Mais il ne l'a pas. Les Jacobins le lui font voir 8 jours plus tard, le 20 juin. D'accord avec Pétion, maire girondin de Paris, les meneurs réunissent dans les faubourgs une cohue d'hommes et de femmes qui, coiffés du bonnet rouge et vociférant, courent au manège. L'Assemblée subit le long défilé d'une foule avinée qui se porte ensuite sur le château. Les appartements royaux sont envahis. Le roi, réfugié dans une embrasure de fenêtre, derrière une table, est insulté pendant 2 heures. On lui crie dans le visage « Abat, monsieur Veto, chasse les prêtres, rappelle les patriotes où tu es mort !» On essaye de le frapper à coups de pique, à coups de sabre. Quelques grenadiers le protègent. Il supporte avec calme cette agonie. Même, il se laisse coiffer du bonnet rouge et boit un verre de vin tendu par un homme du peuple à la santé de la nation. Cet attentat semble dégoûter Paris, le rapprocher du roi. Mais la girouette populaire tourne à nouveau. L'avance des Prussiens sur la frontière lorraine exaspère les esprits. L'Assemblée législative, le 11 juillet, déclare la patrie en danger et ordonne une levée générale de volontaires. Le 28, on connaît l'insolent manifeste que le chef des armées ennemies, le duc de Brunswick, a publié comme il entrait en France. Il voue la capitale à une exécution militaire et à une subversion totale si Louis XVI est de nouveau outragé. Une furieuse colère soulève Paris. Avec la complicité de Pétion, Robespierre, habile de jouer un rôle de premier plan, Danton, tribun puissant mais jouisseur sans scrupules, l'atroce Marat, rongé de haine et d'ulcères, Camille Desmoulins, âme équivoque et tourmentée, et à leur trousse une bande ignoble, anxieuse de se pousser aux places et à l'argent, Manuel, Hébert, Chabot, Merlin, Fournier, Chaumette, Santerre, prépare une nouvelle journée qui doit renverser le trône et proclamer la République. Le suprême assaut. Le soir du 9 août, un soir torride, tout Paris est dans les rues. Il entend soudain la cloche des Cordeliers sonner le tocsin. C'est Danton qui a fait donner le signal. Aux Tuileries, on comprend que l'attaque est proche. Cependant, Louis XVI s'est endormi. Marie-Antoinette et sa belle-sœur Élisabeth ont passé la nuit debout, s'attendant au pire. Pâle et s'appuyant l'une sur l'autre, elle voit se lever un beau jour, le dernier de la monarchie. Déjà, les Tuileries sont cernées par des bandes d'émeutiers. Louis XVI, les cheveux défrisés et sans poudre, va passer la revue de la garde nationale rangée dans la cour du carrousel. Il ne sait pas trouver les quelques mots qui pourraient empêcher cette milice encore flottante de se joindre aux émeutiers. Comme il entre aux Tuileries, des canonniers courent sur ses pas, criant « À bas le roi !» Déjà, les insurgés sont aux portes. Roederer, procureur syndic de la commune, légiste sans fermeté, conjure Louis XVI de quitter le palais et de demander asile à l'Assemblée. Marie-Antoinette s'y oppose. « Mais nous avons des forces !»« Quelle a raison ?» Avec les 200 chevaliers de Saint-Louis accourus dans les salons et les antichambres, les 900 Suisses disciplinés et fidèles, prêts à mourir sur un ordre, on peut tenir contre l'assaut désordonné des faubourgs. Roederer supplie, et autour de lui des ministres, des officiers municipaux qui ont surtout peur pour eux-mêmes. La résistance est impossible, disent-ils, tout Paris est là. Louis XVI regarde la reine, elle détourne les yeux, comme honteuse de tant de faiblesse. « Marchons, » dit-il. Il n'a d'énergie que dans la soumission. Vers quoi marche-t-il ainsi le pauvre homme, derrière Roederer et les ministres qui ont pris la tête, avec à côté de lui sa femme, sa sœur et ses deux enfants, par la grande allée du jardin des Tuileries, jonchée déjà de feuilles sèches? Vers l'Assemblée, vers l'appui de la Constitution jurée par lui et par la France, nul encore ne peut penser dans ce jour étouffant où la sueur trempe les visages, que c'est vers la captivité et vers la mort. Déchu le soir même, le roi est peu après emprisonné au temple. Valmy. Cependant, les Prussiens se sont emparés de Longwy, de Verdun. La perte de ces deux places jette Paris dans une fièvre obsidionale, prête aux folies et aux crimes. Les dictateurs de la commune, dont le chef est Danton, poussé par Marat, veulent du sang. Ils croient, peut-être ne se trompent-ils pas, que la République ne peut se fonder que par la terreur. Ils organisent la boucherie des prisonniers royalistes et des prêtres réfractaires à l'abbaye, au Carme, à la Force, au Châtelet, à Bicêtre. Danton et leurs complices et l'avouent. L'Assemblée se borne à blâmer les massacres. Quant à la Commune, elle ose payer ceux qui se sont employés aux exécutions populaires. 1200 personnes périssent, parmi lesquelles la meilleure amie de la reine, la triste et charmante princesse de Lamballe. Cet abominable massacre révolte enfin les Girondins qui n'ont pas su l'empêcher. Ils se séparent des Jacobins et de leurs chefs Robespierre et Danton. Cependant, la province, une fois de plus, a suivi Paris. La France se courbe sous un mascaret de violence et de haine. Mais à 2 semaines de là, un grand coup de vent pur la redresse, Dumouriez et Kellermann sont vainqueurs des Prussiens à Valmy le 20 septembre. De cette rencontre médiocre, où l'on ne comptera pas 500 tués, sortent les résultats d'une grande victoire. Par un jour de brume et de pluie, l'infanterie prussienne, la meilleure d'Europe, tente d'enlever le plateau de Valmy occupé par Kellermann. Plus encore que notre infanterie, dressée au cri de « Vive la nation », la belle artillerie de la royauté brise son élan. Brunswick ne recommence pas l'assaut. Pour des raisons mystérieuses, intelligence maçonnique, peut-être achat, peut-être espoir aussi d'être appelé à régner un jour en France, il se retire vers la frontière. Ses soldats, plus que lui, ont le sentiment d'un fait considérable. Le jeune Goethe, volontaire dans son armée, l'exprime à ses camarades par ces mots fameux « Dans ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque dans l'histoire du monde. Vous pourrez dire « J'y étais ». La mort du roi. À l'heure où la France de la Révolution pour la première fois fait ainsi à marche hardie reculer l'Europe, la Convention prend séance. La terrible Assemblée va régner pendant 3 ans. Pareille à une lance dont la pointe est tachée de sang, mais qui cependant domine, elle marque un des sommets les plus tragiques, les plus affreux, mais aussi les plus saillants des annales françaises. Dès sa première réunion, le 21 septembre, la Convention vote l'abolition de la royauté à l'unanimité des 371 députés présents, moins de la moitié des élus. La République est proclamée le 25. Quelques semaines plus tard, après de nombreuses disputes entre Girondins et Montagnards, commence le procès de Louis XVI. Les Montagnards exigent sa mort. La tête du dernier roi de France jette en défi à l'Europe Voilà pour eux le geste symbolique qui séparera sans recours le présent du passé. La révolution dès lors sera indiscutable, partant invincible. Robespierre, qui s'impose chaque jour davantage comme chef de la gauche, le déclare « Louis n'est point un accusé, vous n'êtes point des juges, vous n'avez pas une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. » C'est la théorie du crime d'État nécessaire. La majorité des Girondins s'y dérobe. Presque tous, sauf Vergniaud et Barbaroux, voudraient sauver un monarque malheureux et, dans l'ensemble des faits, innocent. Mais en se prononçant avec indulgence, ils craignent de passer pour suspects. Ils n'ont encore été que maladroits et versatiles. À présent, ils sont lâches. Cette lâcheté, ils la paieront d'un terrible prix. Le procès, entamé le 11 décembre, finit le 20 janvier 1793. Louis XVI, assisté de son ancien ministre Malesherbes, de Tronchet et de Sèze, se défend avec une touchante dignité. Louis Capet est déclaré coupable de conspiration contre la Sûreté générale de l'État et condamné à mort. Vergniaud trouve encore le courage de demander l'appel au peuple. Robespierre et Marat l'emportent sur lui par une dialectique acharnée. Le 20 janvier, à 3 heures du matin, la Convention, par 380 voix contre 310, décide l'exécution pour le lendemain. Par un gris et froid dimanche, sur la place de la Révolution, hier place Louis XV, demain place de la Concorde, la guillotine, invention nouvelle, attend le petit-fils de Louis XIV, d'Henri IV et de Saint-Louis. Toutes les troupes dont dispose la Convention et la Commune font la haie sur son passage. Louis XVI monte les degrés de l'échafaud avec calme. Jamais dans sa vie il n'a paru si roi. Vainement tente-t-il de parler au peuple. On entend « Je meurs innocent ». Les tambours engloutissent sa voix. Parmi les spectateurs, même les révolutionnaires les plus décidés sont émus. Les autres pleurent devant cette fin inique et désolée d'un roi honnête homme qui n'a eu que le tort de se montrer trop inférieur aux circonstances et dont la candeur, la faiblesse, ont fait condamner avec lui un régime de 8 siècles à qui la France doit d'exister.